Après avoir vaincu la Russie, la France s'attaque à la Chine en Indo-Pacifique, car la Chine pourrait exploiter la fragilité des forces françaises pour imposer un fait accompli selon OPEX 360 qui s'explique comme suit. En septembre dernier, après la rupture du contrat relatif aux sous-marins australiens, on pouvait légitimement se demander si la décision de Canberra de nouer une alliance stratégique avec Washington et Londres n'était pas en partie due au fait que la France n'avait pas forcément les moyens de ses ambitions militaires dans la région Indo-Pacifique. En effet, après la professionnalisation des armées décidée, en 1995 et le coup de rabot de la révision générale des politiques publiques RGPP, en partie confirmé par la loi de programmation militaire LPM 2014-2019. Le format des forces dites de souveraineté s'est réduit comme peu de chagrin, alors même qu'elles contribuent aux principales fonctions stratégiques, prévention, intervention et connaissance et anticipation. Et sont susceptibles d'appuyer la dissuasion. Qui plus est, les capacités qu'elles mettent en œuvre sont insuffisantes. Il leur manque, par exemple, des moyens de lutte anti-sous-marine quand elles ne sont pas dépassées au point de risquer des ruptures capacitaires temporaire. Ainsi, en juillet dernier, plus aucun navire de la Marine nationale n'était disponible en Nouvelle-Calédonie après un incendie survenu à bord du plus récent d'entre eux, à savoir le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer BSAOM, d'entre Casto. Certes, le renouvellement des patrouilleurs P-400 est engagé, de même que celui des avions de surveillance maritime programme AF-SIMAR, désormais appelé Albatros. Mais il manquera toujours des capacités de lutte anti-sous-marine et des avions de transport récents. Tel est le constat dressé par les députés Monica Michel Brassard et Laurence Trastour-Isnard dans un rapport sur les enjeux de la défense en Indo-Pacifique récemment publié. La modernisation de nos moyens militaires a déjà été engagée, notamment à la suite de la dernière LPM. Ainsi, en 2025, les Falcon 200 dédiés à la surveillance maritime vont tous être remplacés par des Falcon 2000 beaucoup plus performants. Heureusement qu'il ne s'agit pas de F-35 américains. Les nouveaux patrouilleurs d'outre-mer, POM, devraient, quant à lui, intervenir à l'horizon post-2030 reconnaissent les deux parlementaires. Mais prévient-elle, il n'en reste pas moins que ce décalage du rythme de la montée en puissance de nos moyens militaires avec ceux de la Chine crée une fragilité exploitable par cette dernière pour mener une politique du fait accompli, notamment en matière de pêche, tout en exposant nos marins à un potentiel incident armé. Au cours de leurs auditions réalisées pour les besoins de leur rapport, Mesdemoiselles Michel Brassard et Trastour-Isnard ont recensé quelques pistes pour remédier à cette situation. Ainsi, il est question de reconsidérer la cible des patrouilleurs présents en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, actuellement 2 unités par plot, qui pourrait être augmenté de 1 à 2 patrouilleurs supplémentaires, ce qui ferait 2 à 4 pompes de plus à commander. Dans le même registre, les députés préconisent d'accélérer et de renforcer le renouvellement des frégates de surveillance par le lancement d'un programme de corvettes en cohérence avec le programme de corvettes européennes. Navire de classe moyenne mais doté d'une valeur militaire plus solide afin d'afficher une présence militaire prépositionnée, de plus forte crédibilité opérationnelle et d'estimer qu'il en faudrait 2 par plot au lieu d'une. Une autre recommandation parle d'étudier l'acquisition de moyens amphibies prépositionnés, capacité perdue avec le retrait du service des BATRAL, bâtiments de transport léger, mais pourtant utile pour disposer sur une zone d'une capacité minimale de projection de force en cas de mission humanitaire et de maintien de l'ordre UVA nord de la Nouvelle-Calédonie, voire de démonstration de puissance interarmée face à un risque de occupation étrangère illégale d'un îlot isolé. Enfin, il s'agirait également d'accélérer le renouvellement de la composante surveillance maritime en la combinant avec un programme de surveillance spatiale plus ambitieux en s'appuyant sur les capacités satellites civiles et de LIA pour en extraire des données valorisées et de conduire des activités à faire visibilité. Bon, pour moi, c'est trop technique, stratégique. Le prix du baril WTI bondit de plus de 6%, le Brent de plus de 5%. Les deux principales références du marché pétrolier ont connu une forte augmentation en début de semaine. Les traders redoutent que l'exclusion de certaines banques russes du réseau SWIFT n'entraîne une brutale hausse des cours du Brut. Le baril de Brut West Texas Intermediate WTI a augmenté de 6,27% ce 28 février, se portant à 97,33 $ vers 4h45 heure universelle, tandis que le Brent de la mer du Nord augmentait de 5,24% à 103,06 $. Les États-Unis et l'Union européenne ont déclaré qu'ils excluraient certaines banques russes du système international de paiement bancaire SWIFT et ont personnellement visé le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. L'UE a également interdit toutes les transactions avec la banque centrale russe, ce qui a fait s'effondrer le rouble, qui selon Bloomberg était indiqué en baisse de près de 30% dans les échanges internationaux lundi. Le retrait de certaines banques russes de SWIFT pourrait entraîner une perturbation de l'approvisionnement en pétrole, car les acheteurs et les vendeurs essaient de voir comment s'y retrouver dans les nouvelles règles. À noter Andy Lipav de Lipav Oil Associated à Houston au Texas aux États-Unis, cité par l'AFP. Les traders suivent de près la réunion prévue pour le 2 mars de l'OPEP+, qui rassemble les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, menée par l'Arabie Saoudite et leurs 10 partenaires dont la Russie, guidée par la Russie. Au cours de cette réunion, ils discuteront d'une éventuelle augmentation de leur production. Le groupe est déjà convenu d'augmenter progressivement sa production chaque mois, mais la crise ukrainienne pourrait bouleverser ses plans. Les propagandes de guerre ne cessent de s'intensifier, de fausses vidéos et des légendes semblables à celles créées de toutes pièces par les médias américains lors de l'invasion de l'Irak en 2003 se multiplient. On savait que la situation de l'Empire était catastrophique au point où ils ont inventé une fausse pandémie et imposé une véritable dictature qui ne dit pas son nom, mais désormais l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, se découvre des tendances nettement suicidaires. La Russie a mis en état d'alerte sa force de dissuasion nucléaire après que les États-Unis aient mis en état d'alerte maximale l'ensemble de leurs forces stratégiques nucléaires. On apprend également que le système russe périmètre datant de la guerre froide et que l'on croyait inopérant depuis l'époque Eltsine est non seulement opérationnel, mais a été grandement amélioré. Le système périmètre peut automatiquement déclencher le lancement des vecteurs stratégiques nucléaires russes. Si une attaque nucléaire était détectée par un réseau de capteurs sismiques de lumière, de radioactivité et de suppression. Et même si tous les échelons de commandement de l'ensemble des forces armées russes sont entièrement détruits et que la structure même de l'État russe est anéantie. Ce système connu aussi sous l'appellation de la main morte n'est pas le seul qui déclenchera une seconde de frappe. Un autre système automatisé complétera la destruction mutuelle assurée par des moyens impliquant des vecteurs en orbite asynchrone et géostationnaire. Ce système dont l'existence est niée par les Russes est fort mal connu et serait en développement depuis le début des années 2010. L'acronyme en anglais de la destruction mutuelle assurée, MAD, Mutual Assured Destruction, était au départ une doctrine militaire américaine, théorisée par Donald Bernan de l'Institut Hudson. Ce dernier ironisait souvent sur cet acronyme signifiant « fou » en anglais. La situation est donc à ce point désespérée sur les plans politiques, économiques et socioculturels pour que les élites dites occidentales veuillent entraîner le monde dans un suicide collectif? Ou est-ce leur inaptitude à accepter un changement de paradigme n'assurant plus leur hégémonie sur la planète? Ou encore leur hystérie à voir le dirigeant d'une grande puissance affirmer publiquement que l'ensemble de leur pouvoir était basé sur le mensonge et la tromperie? À quoi ressemble l'opération militaire russe en Ukraine? La Russie revendique la suprématie dans l'espace aérien ukrainien. Vladimir Poutine a annoncé le 24 février le début d'une opération spéciale pour protéger les habitants du Donbass. Selon la défense russe, ses forces aérospatiales ont détruit 8 véhicules de combat Buk MA, des systèmes de défense aérienne S-300, 3 points de radar P-14, 4 avions militaires sur terre et un dans les airs. L'aviation russe a gagné la domination de l'espace aérien de toute l'Ukraine, a annoncé le 28 février le ministère russe de la Défense. Selon le porte-parole de la Défense, Igor Konachenkov, les forces aérospatiales russes ont détruit 8 véhicules et véhicules de combat Buk MA, des systèmes de défense aérienne S-300, 3 points de radar et P-14, 4 avions militaires sur terre et un dans les airs. L'armée russe a déclaré avoir détruit 1114 infrastructures militaires ukrainiennes depuis le début de l'opération. Selon la défense russe, le pouvoir ukrainien utilise la population de Kiev comme bouclier humain. Les autorités de l'Ukraine et les autorités de la ville, après avoir annoncé le couvre-feu, appellent les habitants de la capitale à rester chez eux. Cela prouve une fois de plus que le régime de Kiev utilise les habitants de la ville comme bouclier humain pour les nationalistes qui ont déployé des unités d'artillerie et du matériel militaire dans des zones résidentielles de la capitale. Ils ont annoncé également que des groupes de saboteurs russes opéraient dans la capitale et que la ville est bloquée, a indiqué Igor Konachenkov. Il a rappelé que les résidents de la capitale ukrainienne peuvent circuler librement le long de l'autoroute Kiev-Vassilkov. Cette direction est ouverte et sûre. Quant à la ville de Mariupol, dont la plus grande partie est piégée et dont les habitants sont pris en otage par les militaires ukrainiens, son sort sera débattu lors des pourparlers en Biélorussie. A pour sa part déclaré Edvard Bassourine, chef adjoint de la milice populaire de Donetsk. L'opération militaire russe s'est déclenchée le 24 février, 3 jours après que Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des républiques de Lugansk et Donetsk, expliquant que l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk et que la situation dans le Donbass peut être qualifiée de génocide. Le président russe a alors souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, mais la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ce qui a été confirmé le 25 février par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui assure que cela va permettre aux Ukrainiens de déterminer librement leur avenir, une fois qu'ils se seront libérés de leur joug. L'une des figures emblématiques de l'oligarchie ukrainienne est Igor Kolomoïski, l'homme d'affaires israélien et mania ukrainien du pétrole et des médias considéré comme la figure la plus puissante du pays en dehors du gouvernement. Il est réputé comme le créateur de l'Azov Bataillon, un homme emprunté à la mer éponyme qui borde l'Ukraine. Les oligarques ukrainiens exercent une influence démesurée dans le pays, contrôlant les médias et finançant parfois des factions entières au Parlement pour abuser de la privation brute de secteurs à travers le pays. Ils l'ont fait alors même qu'ils gardaient l'argent des investissements occidentaux dans les banques étrangères et envoyaient leurs enfants vivre et étudier en Europe et aux États-Unis. « Ankara a prévenu tous les pays de ne pas envoyer de navires en mer Noire par les détroits conformément à la Convention de Montreux, alors que la Russie poursuit son opération militaire spéciale en Ukraine. La Turquie a averti les autres pays que les détroits turcs des Dardanelles et du Bosphore reliant la mer Méditerranée à la mer Noire étaient fermés aux navires de guerre conformément à la Convention de Montreux. A annoncé ce lundi 28 février le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu. Nous avons prévenu tous les pays riverains et non riverains de la mer Noire de ne pas faire passer leurs navires de guerre en mer Noire sur fond d'hostilité. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tel passage ni de demande. En ce sens, nous appliquons les dispositions de la Convention de Montreux, a indiqué le ministre cité par l'agence de presse turque Andalou. M. Çavuşoğlu n'a pas précisé quand Ankara avait émis cet avertissement. Le ministre a rappelé que cette convention de 1936 accorde à la Turquie tous les pouvoirs dans les détroits en temps de guerre. Si la Turquie est partie au conflit. Mais si la Turquie n'est pas en guerre, elle peut interdire le passage aux navires militaires des pays belligérants. Toutefois, si un navire de guerre retourne à son port d'attache en mer Noire, son passage n'est pas entravé, a ajouté le ministre. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré plus tôt dans la journée du 28 février que la Turquie se servirait des pouvoirs que lui confère la Convention de Montreux sur la circulation des navires dans les détroits pour éviter une escalade en Ukraine. La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février pour démilitariser et dénazifier ce pays. Lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine a déclaré que l'objectif de l'opération était de protéger les habitants du Donbass victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev depuis 8 ans. L'OTAN et l'UE soutiennent l'Ukraine et lui envoient des armes et des fonds supplémentaires. Auparavant, le président ukrainien avait publié une déclaration sur Twitter sur l'interdiction de passage des détroits turcs pour les navires russes sans indiquer si une telle décision avait été prise ou non par le président Erdogan. Le département de la sécurité côtière d'Istanbul a ensuite déclaré à Spoutnik que les détroits turcs étaient ouverts au passage des navires russes puisqu'ils n'avaient reçu aucun ordre.